tout de suite, retrouvez votre émission hebdomadaire Acteur du quotidien. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de votre fidélité, Acteur du quotidien sur RIG sur le 90.7 en modulation de fréquence et sur RIGFM.fr, c'est sur le net. Bienvenue également aux auditeurs du Médoc qui nous écoutent sur Aki FM, la fréquence c'est 98 et c'est sur AkiFM.fr également. Alors cette semaine c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est l'occasion de faire un zoom sur la vie quotidienne et les difficultés des personnes en situation de handicap. Selon la classification internationale du fonctionnement CIF, CIF, mis au point dans les années 80 par l'Organisation mondiale de la santé, le handicap peut être de 5 types, moteur, sensoriel, psychique, mental, mais aussi les maladies invalidantes. Aujourd'hui, nous vous proposons de partager un temps d'antenne avec la DAPEI 33, l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Gironde, qui accueille et accompagne les personnes en situation de handicap intellectuel, handicap psychique ou avec autisme, ainsi que leurs familles dans chaque étape de leur vie. Et nous avons le plaisir de recevoir Philippe Bégry, qui est président de la DAPEI 33, et Thierry Sauvage, directeur adjoint chargé de l'insertion. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, alors un petit mot, l'ADAPEI 33, l'ADAPEI déjà, si on peut resituer l'association, c'est une association déjà pour commencer.
Merci de nous inviter ce soir pour nous présenter, faire le point sur notre mission et dans le cadre de cette semaine du handicap. L'ADAPEI 33 a été créée, quelques mots sur l'histoire pour comprendre le sens peut-être. La DAPEI 33 a été créée en 1958, donc il y a 62 ans, à partir de quelques parents qui se sont encouragés les uns les autres face à une absence de réponse pour leurs enfants handicapés mentaux. Voilà, donc quelques parents se regroupent, ça se passe à Pessac-Alouette, l'armée de l'air leur met à disposition un petit bout de terrain avec un bâtiment en métal, et on commence à faire travailler quelques enfants qui n'avaient aucune occupation de la journée et dont la nation France ne s'occupait pas à ce moment-là. On est en 1958. 62 ans après, cette association ADAPEI 33 a grandi. Elle est restée une association de parents. Ça veut dire que les membres du conseil d'administration sont essentiellement des parents, mais pas que, puisque aujourd'hui il y a un peu d'échevinage, enfin un peu de mixage. Mais voilà, c'est resté une association de parents. Et avec l'appui des pouvoirs publics et la qualité des professionnels recrutés, aujourd'hui, on accueille chaque jour 2500 personnes handicapées mentales, autistes, handicap psychique, voilà, dans une cinquantaine de lieux différents sur le département du 33, qui est un grand département. Donc 2500 personnes handicapées trouvent, j'allais dire, une forme d'équilibre à leur vie, de joie de vivre, grâce aux différentes palettes d'accompagnement que propose la DAPEI. Mais pour mettre en place cet accompagnement, la DAPEI 33 bénéficie de 1300 salariés, voilà, 1200 équivalents temps plein, mais 1300 réels, 1300 salariés qui accueillent tous les jours 2500 personnes.
On verra un petit peu effectivement sous quelle forme et les différentes offres que vous proposez. Alors on le disait, c'est une association donc départementale, on la retrouve dans quasi tous les départements, mais même je crois même dans l'intégralité des départements du territoire.
Je crois aussi, oui.
Et tout ça dépend d'une structure nationale.
Alors le mot dépendre n'est pas tout à fait le mot juste, pardon. Nous avons au niveau national une tête de pont qu'on appelle un peu comme une fédération. Donc nous sommes membres de l'UNAPEI, Union Nationale des ADAPEI,
Voilà.
Mais qui n'a pas autorité.
Voilà, c'est ça, vous gardez votre indépendance dans le mode d'action.
Tout à fait. En fait, notre action, donc ces 1300 salariés, représentent bien entendu une masse salariale importante, prise en charge essentiellement par l'État et le conseil départemental. 90% de nos recettes proviennent de l'État et du conseil départemental, davantage de l'État, mais une grande partie du conseil départemental quand même, bien sûr. Et donc, ces 1300 salariés mènent une action sous le contrôle du conseil d'administration qui lui-même doit, j'allais dire, avancer sur la base des principes mis en avant par les pouvoirs publics. Donc il y a un vrai dialogue permanent entre les pouvoirs publics et l'association qui, elle, relève du droit privé, mais fonctionne quand même à 90% avec des fonds publics.
Très bien. Et du coup, comme toutes les associations, donc on le disait, il y a aussi du bénévolat.
Alors, c'est une association créée donc par des familles, une association de parents. Aujourd'hui, le bénévolat est quelque chose qui est parfois difficile. La vie, enfin, même s'il semble se développer beaucoup dans la société, il n'est pas toujours naturel. Aujourd'hui, nous avons quand même près de 550 membres actifs sur 2300 familles qui bénéficient d'un accueil de l'ADAPEI. Mais dans les 2300 personnes qui sont accueillies par l'ADAPEI, beaucoup déjà n'ont plus de famille, puisque certains sont vieillissants, etc. Mais enfin, nous avons donc près de 550 familles actives qui s'engagent. Et vous voulez quelques exemples?
Ben allez, on y va, oui, bien sûr, bien sûr. Il faut rendre un hommage à ces gens qui s'engagent, justement.
Alors, ces gens s'engagent par zone géographique, parce que c'est pour leur éviter de faire trop de kilomètres. Donc, il y a 5 zones géographiques dans notre grand département. On a le plus grand département de France, hein. Donc, il y a la zone du bassin d'Arcachon, la zone du Médoc, que je salue ce soir, la zone du Blayais, la zone de Sud-Gironde, la Réole, et puis Bordeaux Métropole. Voilà. Donc, à l'intérieur de notre association, il y a 5 sections locales de parents engagés, et ces parents sont engagés, un, j'allais dire, dans le suivi de la gestion de l'association, et deux, j'allais dire, dans l'animation. Ils proposent des activités complémentaires, type sportive, type artistique, peinture, sortie loisir, tout simplement, et ils suivent, les parents suivent la marche de chaque établissement. Nous avons donc une cinquantaine d'établissements sur ce territoire de la Gironde, ce qui est très important, et donc les parents sont engagés à travers ce qu'on appelle une délégation à l'action associative. Ils sont reconnus par le conseil d'administration et validés. Ils s'engagent dans la vie de chacun des établissements. Voilà. Enfin, je veux pas être trop long.
Pardon. Alors, les établissements, justement, c'est un petit peu le cœur. C'est un petit peu comme ça que vous mettez en place cette politique d'accueil et d'accompagnement. Alors, on peut peut-être décliner un petit peu les différentes actions.
Alors, très rapidement, nous avons 4 pôles importants à l'ADAPEI. Le premier pôle, enfin, on va prendre par rang d'âge, c'est le pôle enfance, qui accueille des enfants handicapés mentaux ou handicapés psychiques ou avec autisme et qui essaye de les amener à une certaine connaissance par un rythme de vie quotidien ou avec un accueil quotidien. Nous avons dans ce pôle enfance également des internats, parce que certains enfants ne peuvent plus vivre dans leur famille, sont trop lourds pour la charge de leur famille au quotidien. Donc on a donc des, entre guillemets, des écoles spécialisées et des internats. Et de plus en plus, ces écoles se tournent pour mieux conjuguer leurs talents, enfin ces talents, à l'éducation nationale, et de plus en plus les échanges se multiplient. Ça, c'est très important. Ça, c'est le pôle enfance. Le deuxième pôle, on peut dire que c'est le pôle adulte, qui regroupe là des personnes essentiellement qui vivent malheureusement un peu en cercle très accueilli par l'ADAPEI, avec un besoin d'ouverture, mais qui représente un gros travail. Et ce sont souvent des établissements, ce qu'on appelle chez nous 24-24, c'est-à-dire que ces personnes vivent chez nous à plein temps. Il y en a environ 500 personnes comme ça qui sont accueillies au quotidien et qui vivent, ça devient leur maison, l'ADAPEI devient leur maison, pour vous dire l'importance de cette mission d'accompagnement, hein. Et un troisième pôle qui est un pôle qu'on appelle hébergement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un handicap plus ou moins lourd et qui peuvent bénéficier de structures de logement dans lesquelles ils vont bénéficier d'un appui. Alors c'est une visite par jour, 2 visites par jour, 3 visites par jour dans le logement qu'ils occupent.
C'est ça, ils sont en autonomie dans leur logement, mais il y a un accompagnement avec des professionnels qui surveillent et qui s'assurent que tout va bien.
Voilà, qui viennent les aider dans ce quotidien où le handicap fait qu'il y a quelques faiblesses qui ne leur confèrent pas la totale autonomie. Voilà. Et puis on a un quatrième pôle qui est en nombre le plus important. C'est un pôle qui fait travailler presque entre 1100 et 1200 personnes. C'est ce qu'on appelle le pôle travail, c'est-à-dire que ce sont des personnes handicapées qui tous les matins se lèvent pour aller travailler et pour essayer de se tourner de plus en plus vers une vie ordinaire. Et c'est là que mon voisin Thierry Sauvage, que vous avez invité ce soir, a un rôle important, puisque dans ce pôle travail, il essaye d'amener les gens à s'insérer dans le milieu ordinaire. Voilà. Ouais. Donc 1100 personnes, 1100 à 1200 personnes dépendent de ce pôle travail et on y cherche une insertion toujours plus grande avec les entreprises. J'en profite juste pour dire un grand merci à toutes les entreprises qui nous confient du travail, puisqu'on est des sous-traitants souvent, qui nous confient du travail ou qui accueillent nos jeunes au sein de leurs équipes. Voilà, on va y revenir.
On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Avant, vous l'avez abordé un tout petit peu, mais je pense que c'est un sujet qui est quand même important. Un des grands enjeux, c'est le vieillissement de cette population que vous accueillez. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, au départ, il n'y avait rien, puis on s'est occupé des enfants et tout ça. Et c'est maintenant, cette population vieillit et ça devient un enjeu de demain.
C'est un enjeu, vous mettez le doigt dessus, c'est un enjeu extrêmement important. Puisque quand on vieillit, on a besoin de services supplémentaires. Qui dit services supplémentaires dit des établissements adaptés, avec des équipes professionnelles adaptées. Et là, il y a... Je prendrai à contrario, juste pour avoir une image. De même que les enfants que nous accompagnons, nous tentons de travailler l'insertion de plus en plus tôt, de plus en plus vivement, de même que le vieillissement. Donc il y a un enjeu au niveau de l'enfance pour aller dans le monde, et il y a un enjeu sur le vieillissement pour accompagner ce vieillissement, mais c'est un sujet nouveau qui grandit, et voilà, comme pour toute la société française. Juste sur cette fin d'intervention, je ne sais pas si c'est la fin, mais pour moi, à l'instant, sans vouloir, il faut concevoir que toute personne handicapée est une personne. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a la petite école existe, la grande école existe, le travail existe et le vieillissement existe. Voilà, pensons aussi simplement et notre débat va avancer plus clairement peut-être.
Oui, tout à fait. Donc on va développer, puisqu'on est dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on va développer la partie travail. Avant, je vous propose de faire une petite pause musicale avec un titre un petit peu poétique et très moderne, signé Géol et qui s'appelle Hors du temps. Et ça correspond peut-être un peu, vous me direz, à la population que vous accueillez. Et donc on écoute ça tout de suite et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer cet acteur du quotidien sur la DAPI.
Seul dans un vaisseau à la dérive, en apesanteur depuis trop longtemps, flottant entre deux âges, flottant entre deux rives, à la poursuite de ses propres vestiges maintenant, une vie errante dans un amas de mirages ondulants. Hors du temps, à travers le champ des saisons, lorsque tout se mélange dans de vastes paysages sauvages, là où les fleurs se parlent de couleur d'automne, là où les heures s'étonnent et se parlent, là où l'humain chantonne, mais où tout reste instable. Hors du temps, comme le miroir qui transperce enfin le reflet du soir, lors d'un hiver près du feu, il aperçoit l'été fou, les cheveux souvent décoiffés par le vent des rêves mouvants. Ces rêves vierges dont nul ne sait rien et qui paraissent inexistants. Hors du temps, l'homme enfant dessinant du bout du doigt une âme sœur sur le bois veiné d'un arbre cœur. Le sage messager, quand la sève s'en va secrètement avec les images sacrées, évitant doucement entre les branches le ciel flamboyant. Hors du temps, du temps, ses pièces en suspens au-dessus d'un échiquier vertigineux, pour qu'à chaque instant elles changent leur destin effréné. Au-delà de l'instinct, se laissant simplement bercer par les chants voyageurs dont les refrains se ressemblent étrangement. Hors du temps, seul dans un vaisseau, dans un vaisseau à la dérive, à la dérive.
Et nous nous retrouvons pour cette deuxième partie d'émission avec Philippe Bégri, président de l'ADAPEI 33, et Thierry Sauvage, directeur adjoint chargé de l'insertion. On a bien présenté l'association dans la première partie, et donc dans le cadre de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc on va faire maintenant un petit focus sur justement la partie travail. Alors Thierry Sauvage, justement, cette semaine de l'emploi.
Bon, déjà merci de nous inviter, de nous donner ce temps d'antenne. Je vais effectivement prendre la suite de Monsieur Bégri, notre président, pour parler de la CEP, donc de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées. Alors je dirais CEP, hein, pour éviter de toujours répéter tous ces mots-là, et également parler de l'insertion faite en milieu ordinaire par l'ADAPEI de la Gironde. Alors juste en préambule, hein, parce que je voudrais pas noyer les auditeurs dans plein de chiffres, juste à donner quelques données de contexte. C'est-à-dire que même si le taux de chômage des personnes handicapées a baissé, ça reste quand même très fragilisé sur le marché du travail, parce qu'elles ont quand même un taux de chômage qui est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Il y a seulement 25% des personnes en situation de handicap qui ont un niveau supérieur ou égal au bac, et donc un niveau de qualification plus faible, et on note aussi un âge plus élevé et un chômage de plus longue durée. Donc même si les lois, l'inclusion avance, même si les chiffres du chômage baissent pour les personnes handicapées, il reste quand même beaucoup plus élevé que la moyenne. Voilà. C'est pour ça que c'est pour cette raison, en fin de compte, que la CEP, alors, créée par l'ADAPT et portée par la GFIP, reste un événement très important dans ce contexte. Alors, la CEP, elle s'adresse à deux publics en particulier, les personnes en situation de handicap et les employeurs.
Voilà, c'est important la notion d'employeur. Là, on parle d'employeur en milieu ordinaire.
Tout à fait. D'employeur en milieu ordinaire. Comme disait Monsieur Bégri, les employeurs qui sont tous, ni plus ni moins, nos partenaires. Parce que pour trouver de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, il faut les employeurs qui embauchent. C'est très très simple comme équation. Alors, pour les personnes handicapées, effectivement, le message qu'on porte, pour ceux qui recherchent de l'emploi en milieu ordinaire, c'est de leur dire que c'est possible. Qu'il y a des employeurs qui sont prêts à les embaucher. Je vais vous donner quelques exemples en 2019 d'embauche, hein, de personnes que nous accompagnons. Donc des personnes qui provenaient tous d'ESAT, donc ESAT, hein, établissement de services et d'aide par le travail. Sébastien, 36 ans, qui était passionné de voitures, lui est embauché en CDI comme préparateur de voitures à Bayern Auto Mérignac. Michael, 32 ans, sortant des ATOSI, aussi, embauché comme brancardier à l'hôpital militaire Robert Piquet. C'est important parce qu'on voit qu'ils vont sur des entreprises auxquelles on ne pense pas au premier abord. On ne pense pas aller à Robert Piquet, effectivement, ou nettoyer, faire du nettoyage de voitures de luxe. Cyril, 31 ans, embauché comme agent logistique à CDI à Leroy Merlin. Et on connaît tous, effectivement, le professionnalisme de Leroy Merlin et ce qui est demandé en termes d'exigence par rapport à leur employé. On a aussi Christophe, 40 ans, CDI à la blanchisserie Girondine. Voilà tout plein d'exemples qui montrent des gens qui sortent de nos institutions, qui ont été formés et qui sont employables et à qui les employeurs donnent confiance. Ou d'autres parcours d'insertion, on a Yeva actuellement, qui est agent d'accueil dans une clinique bordelaise. Et quand on sait toute la polyvalence et la pression qu'on demande à un agent d'accueil, on voit là toutes les compétences qu'elle peut avoir. Ou alors Bastien, provenant d'un CSAT pro, est actuellement mis à disposition à la Monnaie de Paris, où il fait de la tampographie, de la colorisation de pièces de collection. Quelque chose qui a une forte valeur ajoutée, quelque chose de très précis, qui demande beaucoup d'autocontrôle, et en fin de compte, il tient tout à fait le poste.
Oui, vous vouliez...
Oui, sur tous ces exemples que nous donne Thierry Sauvage, dont le métier est tous les jours de veiller à ce que ces personnes qui sont arrivées chez nous un peu fragilisées, elles ont trouvé un temps d'accompagnement à l'intérieur de l'ADAPEI, et puis elles ont trouvé en elles le goût, le ressort d'aller vers l'extérieur, avec l'appui de conseillers d'insertion qui restent tout près des entreprises qui accueillent, hein. C'est ce qu'il faut, j'allais dire, rassurer les employeurs et rassurer les personnes qui font ce saut, de nous quitter un peu, de mettre un peu plus de pointillés entre nous et leur travail. Il faut rassurer tout le monde. Il faut dire qu'il y a des équipes très spécialisées, sous la responsabilité de Thierry Sauvage, qui sont capables de faire vraiment un suivi individuel. C'est ça qui est très joli. Et dans tous ces exemples précis, individuels, donc, que donne Thierry, on voit bien que chacun écrit son histoire, avec cette étiquette un peu handicap au-dessus. Mais enlevons un peu cette étiquette et rappelons qu'on est tous des personnes et que chaque personne trouve son chemin avec un peu plus d'appui que d'autres, peut-être. Mais...
Et des formules un peu plus personnalisées. Puisque là, vraiment, c'est du cas par cas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'encadrants, d'ailleurs.
C'est ça la force de Thierry Sauvage, et je lui rends la parole, c'est d'écrire un projet avec chacun. Pas pour chacun, mais avec chacun.
Merci. Pardon, pour la force donc, des équipes de l'ADAPEI, c'est tout à fait aimable. Donc en tout cas, le message va pour les personnes handicapées, pour ceux qui cherchent de l'emploi et pour ceux aussi qui cherchent à se maintenir en emploi. C'est aussi une question, trouver un travail c'est une chose, s'y maintenir c'est autre chose. Donc effectivement, la CEP est là pour ça. Et la CEP, elle parle aussi aux employeurs, leur dire que c'est possible. Nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises, soit très connus, McDonald's, Roi Merlin, on travaille avec Auchan, Decathlon, la Monnaie de Paris. Alors c'est à la fois des partenaires, c'est vraiment devenu des partenaires de l'insertion. Et on travaille aussi avec des plus petites PME, comme l'entreprise Origine sur Mérignac, qui fait de l'ensachement de thé, ou Futura, l'entreprise de fabrication de portes et fenêtres en métal. Donc on a comme partenaire des très grosses entreprises nationales, tout comme des tout petits artisans. Alors, en fin de compte, pour les employeurs, ce qui compte pour eux, c'est de sortir de parfois de cette méconnaissance. Il y a deux freins majeurs. Le premier, pour un employeur, c'est la méconnaissance, parce qu'il y a toujours le stéréotype, le préjugé, l'image de l'handicapé, c'est-à-dire il va me prendre du temps, il va être lent. En fin de compte, c'est pas du tout ça. Je vais mettre un peu de contexte, un peu de sémantique là-dessus. On ne dit pas, enfin on ne dit plus d'ailleurs, la personne handicapée, on dit bien la personne en situation de handicap, parce qu'elle est en situation de handicap par rapport à son environnement. Alors vous me direz, Monsieur Corpart, c'est du blabla, hein, c'est de la sémantique, tout ça. Alors je vais prendre des exemples, parce que parfois les exemples, ça a beaucoup plus de puissance que les mots. Là, on est dans un super studio, merci d'ailleurs de nous accueillir dans ce beau studio. Il fait nuit, et admettons une coupure de courant. Ben, qui va être en situation de handicap? Est-ce que ça va être nous ou la personne qui est déficiente visuelle? Je suis sûr que s'il fait noir, moi je vais me cogner à tous les coins de table et la personne aveugle, elle va tranquillement marcher autour de la table. Et comment je vais rétablir l'équilibre? On va appuyer sur l'interrupteur, ça s'appelle la compensation, et là je ne me cogne plus. Vous voyez, l'image elle est simple, mais elle est forte. Ou alors je vais prendre une autre image, vous rentrez dans une entreprise, vous avez une secrétaire qui est assise, de la main droite elle tient le téléphone à prendre derrière vous, la main gauche elle est en train de taper un rapport. En même temps, elle est en train de composter le courrier pour ses heures. Vous vous dites, oh, la secrétaire, j'aimerais bien la voir dans l'entreprise. On voit que franchement, elle est compétente, quoi. Et en plus, elle trouve le temps d'aller voir le directeur pour signer un contrat. Et là, vous voyez qu'elle est en fauteuil roulant. Vous le voyez à ce moment-là. Et pourtant, avant de voir le fauteuil roulant, pour vous, elle n'était pas handicapée, elle était compétente. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire comprendre, je pense, aux employeurs.
Alors, c'est pas facile, d'autant que vous travaillez avec la notion de handicap mental.
Oui.
Et donc, du coup, là, il y a un frein supplémentaire par rapport au handicap physique.
Alors, je n'ai pas dit, supplémentaire, différent. Parce que différent, tous les handicaps, effectivement, leurs difficultés, l'handicap invisible, l'aménagement, effectivement, il n'est pas inné. Alors, les employeurs, quelque part, ils connaissent la compensation. Ils le font tous les jours. Alors, c'est marrant, on leur le fait remarquer quand ils ont une personne, un collaborateur enceinte, et bien, ils vont aménager le temps de travail. Quand ils ont une personne vieillissante, et bien, ils vont diminuer le port de charge dans une entreprise. Alors, ils le font déjà, la compensation. Sauf que, comme vous dites, l'handicap invisible, c'est pas inné. Et c'est là tout le rôle de l'ADAPI, des professionnels, c'est de les accompagner à mettre en place cette fameuse compensation qui est énoncée dans la loi 2005 et qui fait qu'une personne en situation de handicap va... Alors, on va pas dire que l'handicap va s'effacer, mais on va lui donner tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler comme tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc, effectivement, la compensation, c'est quelque chose qui reste très, très important. Alors, maintenant qu'on a un petit peu dressé, effectivement... À qui s'adresse? Ah, je vois que vous alliez me...
Non, mais allez-y,
je vous laisse. Un petit peu, ce que c'était que la CEP, et à qui s'adresser à la fois ce discours, autant aux personnes accompagnées qu'aux employeurs qui peuvent embaucher. Qu'est-ce que c'est qu'une insertion professionnelle? Eh bien, c'est la rencontre de deux personnes. Ça va être la rencontre d'une personne en situation de handicap, avec des compétences, et la rencontre d'un employeur. Là, c'est la CEP, et juste pour donner quelques chiffres, pendant la CEP, il y a le fameux DOD, où effectivement, les entreprises mettent à disposition des journées de découverte. Au niveau de la DAPI, nous avons 22 DOD sur la Gironde, ainsi que 69 journées de stage pour 26 bénéficiaires dans l'opération Un jour un métier. Les entreprises ouvrent leurs portes et permettent à des personnes sur handicap de découvrir un métier. Ça aussi, donc, ça s'appelle du partenariat, parce que pour eux, c'est du temps. C'est du temps de travail et pourtant ils nous l'offrent.
Alors, oui, non, mais c'est, voilà, on est dans le cadre du stage et de l'échange comme ça se passe avec les jeunes.
Comme n'importe quel droit commun, voilà, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, en termes d'insertion, alors, ce qui est important de noter, M. Begri l'a dit aussi, c'est la notion de parcours à un moment donné. Les institutions de service, elles sont très complémentaires avec des passerelles, je dirais, sécurisées qui correspondent en fin de compte aux besoins précis pour la personne et qui permettent de progresser, d'avancer à son allure et de viser une insertion de façon pérenne. Parce que c'est vrai que il y a eu une époque où, je dirais, chaque institution travaillait de façon un peu séparée. Maintenant, toutes les institutions sont reliées par ces passerelles, mieux protégées, mieux ordinaires, et la personne va naviguer dans tous ces dispositifs afin de trouver la bonne entreprise et trouver effectivement la bonne insertion.
Alors justement, quelques exemples sur ces nombreux dispositifs. Lesquels sont les plus usités?
Alors, il n'y a pas les plus usités, je dirais plutôt que c'est en fonction du besoin de la personne. Alors, en fin de compte, à DAPI, il y a le mieux protégé, alors ce qu'on va appeler les ESAT traditionnels, ce qu'on appelait avant les CAT, avec même des dispositifs en interne tels que la VAE, les plateformes métiers, les passeports compétences, ces dispositifs développés pour faire monter les gens en compétences au niveau des ESAT. Nous avons les ESAT de transition. Hier, vous aviez Messidor à l'antenne, hein. Un ESAT, effectivement, sur un public très, très spécifique, où il y a les ESAT hors mur. C'est un ESAT qui casse un peu les codes. Il n'y a plus du tout d'atelier. On accompagne les personnes handicapées directement dans l'entreprise, mais avec un mode d'accompagnement médico-social, vous l'avez dit, personnalisé. Voilà. Et après, nous avons le
meilleur. On peut rappeler quand même, on peut faire un petit coup de promotion, c'est que ces ESAT sont aussi des entreprises et qu'elles ont des clients quelque part.
Tout à fait.
Puisque vous disiez, c'est en sous-traitance, donc on peut aussi les solliciter parce qu'on a des besoins en fonction des spécialités de chacun de ces ESAT.
Absolument. Ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à créer le dialogue. Moi, je voudrais insister sur ce travail d'insertion. Ce travail d'insertion ne peut se faire que si l'ADAPEI est de bonne volonté, mais surtout si tous ceux qui sont en face de nous acceptent de recevoir le coup de téléphone, acceptent de dialoguer, en sachant que le dialogue n'engage pas d'obligation. Certains chefs d'entreprise acceptent, ils sont pas assez nombreux, mais acceptent de prendre en stage chez eux quelqu'un de l'ADAPEI, quelqu'un qui a un handicap, donc. Ils essaient de mettre en place la fameuse compensation dont parlait Thierry Sauvage, et puis ils n'y arrivent pas. Alors soit on insiste un peu parce qu'on a des spécialistes d'insertion, soit ils disent « je préfère me retirer du projet ». Et il n'y a aucun jugement, il y a juste un dialogue à essayer de mettre en place. Il va être couronné d'un vrai succès à notre échelle, enfin dans la durée, ou pas vraiment tout de suite, mais c'est pas grave.
Mais si quelqu'un a la volonté, en fait, on se retrouve avec un employé en face, et à un moment donné, ça matche pas avec l'employé, tant pis, on peut en reprendre un autre.
C'est la même chose. Il faut vraiment pas se dire j'ai une obligation morale de. Il faut se dire. Je participe à une société plus intégrée, voilà. J'essaye, et puis si ça marche pas. J'ai réussi du premier coup, j'ai pas réussi du premier coup. Je préfère m'arrêter. Enfin, il faut garder cette liberté profonde vis-à-vis, de l'accueil des personnes en situation de handicap. Voilà, certaines grandes entreprises ou petites entreprises nous confient le nettoyage de leur jardin, de leur parc, de leur propriété industrielle. Je vais pas citer de nom, mais autour de l'aéroport de Mérignac, des grandes entreprises nous font appel à nos services. Tant mieux. On leur est fidèle par la qualité du service, elles le reconnaissent, tant mieux. Ça se passe moins bien, eh bien on est mis en compétition avec d'autres. Enfin, la liberté est très importante. Il ne faut pas qu'on soit dans un cadre moral qui contraignant.
Ouais, c'est quelque chose effectivement qui est important. Cette notion de vie normale, en fait, de vie normale, quoi.
Et d'ailleurs, quand on présente une personne en situation de handicap en entreprise, on la présente comme n'importe quel demandeur d'emploi. Certes, il y a la compensation. Mais elle est juste confrontée au droit commun. Et d'ailleurs, les vraies entreprises qui jouent le rôle, c'est pas celle qui va dire, moi, je veux que ça soit la bonne. Je leur dis souvent, mais pourquoi, quand vous avez un intérimaire ou un demandeur d'emploi classique qui vient, c'est toujours le bon du premier coup. Enfin, voilà. Effectivement, c'est du droit commun et c'est des entreprises qui cherchent juste des compétences. Je reprends juste rapidement sur les dispositifs parce qu'il y a effectivement l'ADAPEI, toute cette partie mieux protégée qui va permettre aux gens d'accéder à l'emploi. Et après, l'ADAPEI est prestataire de la GFIP où on accompagne des demandeurs d'emploi. Qui ne sont orientés par les services publics de l'emploi, donc Cap Emploi, Mission Locale, Pôle Emploi, les médecins de prévention, voire même les entreprises.
Parce que chacun de ces organismes, enfin Cap Emploi spécifiquement, mais ont tous une spécificité pour l'accueil spécifique justement de la personne en situation de handicap.
Nous, on vient en tant qu'experts autour de la compensation généralement. Donc, on les accompagne sur le projet professionnel, autant dans l'insertion que dans le maintien en emploi. Voilà, ça s'appelle les PASS. Pareil, on va éviter les acronymes parce que ça perd les gens, mais en tout cas, nous accompagnons les demandeurs d'emploi étant en situation de handicap. Et enfin, après les PASS, quelque chose qui est assez nouveau, mais qui est génial, c'est le service d'emploi accompagné. C'est quelque chose qui est maintenant dans le code du travail. C'est quelque chose qui perd, qui va durer dans le temps. C'est passé dans l'année Comri. C'est qu'une personne en situation de handicap peut être accompagnée tout au long de sa vie professionnelle. Si elle en a besoin, bien sûr, c'est un accompagnement socio-pro, enfin, j'irais plutôt même pro-sociaux, je sais pas si le mot existe, où en fin de compte, on va accompagner sur la partie professionnelle et sociale lorsque le social est un frein à l'emploi. Donc enfin, maintenant, en France, une personne handicapée peut être accompagnée tout au long de sa vie s'il y a un besoin.
Alors sachant que cet accompagnement, ça peut être un jour par an, comme un jour par semaine ou comme
tout à
plus
fait.
Fréquemment. Enfin, c'est vraiment au besoin, quoi.
On a toujours l'idée de cet éducateur qui va débarquer tous les jours dans l'entreprise. Non, en fin de compte, c'est au besoin. Alors l'emploi accompagné, c'est porté par Andamos, par la plateforme Andamos. Soit effectivement, il peut avoir des rendez-vous un peu réguliers, mais parfois c'est une veille, c'est un passage une ou deux fois par an. Ou alors même, admettons, un employeur, au bout de 2-3 ans, tout se passe bien, il y a un changement de manager, il faut changer de machine, hop, on appelle le service emploi accompagné qui vient et qui va être là. Alors j'aime pas parler de problème, on dit toujours on vient pour des problèmes. Non, on vient lorsqu'il y a un besoin. Et effectivement, on vient pour un besoin. Donc c'est pas quelque chose de lourd pour l'employeur, c'est pas quelque chose de lourd pour la personne accompagnée, mais ça permet d'éviter des situations de rupture. Voilà.
Alors il y a un autre aspect, on parle de l'employeur, oui il faut que l'employeur soit convaincu et qu'il ait envie pour ouvrir ses portes, pour que le dialogue se mette, mais il y a aussi la problématique du collègue de travail dans une entreprise, quelqu'un qui se retrouve en milieu de travail ordinaire, donc avec des collègues. C'est pas une des difficultés, ça, dans l'entreprise, pour l'employeur, justement?
Si, ça en fait, c'est un des enjeux, hein, d'ailleurs, des politiques RH. Alors, après, je dirais que ça fait partie de notre accompagnement de l'employeur. Parce que quel que soit le dispositif qu'on va développer, de toute façon, on a toujours la même façon d'agir. C'est d'aller rencontrer l'entreprise, de la visiter, de connaître son activité, les métiers, l'environnement, les équipes, et voir les conditions de travail. À côté de ça, on va avoir les postes qu'ils proposent, les compétences qu'ils recherchent. Et après, on va mettre en place un candidat enfin qui corresponde. Mais en même temps, on va faire de la formation et la sensibilisation des salariés et des managers. Parce que souvent, le centre, le nœud du problème, c'est plutôt le manager qu'il faut épauler justement pour pouvoir expliquer aux salariés effectivement pourquoi ou pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé de dire qu'une personne a une situation de handicap. Hein. Monsieur Begret, je vois que vous vouliez...
Non, je voudrais juste... Pour répondre un tout petit peu plus aussi directement peut-être à la question qui est posée, est-ce que l'entreprise est inquiète d'accueillir une personne handicapée par rapport aux collègues? C'était votre question, monsieur.
Oui, un petit peu,
voilà.
Oui, oui.
Voilà. Il faut juste savoir que cette prise de risque d'accueillir une personne en situation de handicap est de façon quasiment unanime et couronnée de succès au niveau de la vie de l'entreprise. C'est accueillir quelqu'un, c'est vrai, d'un peu différent. Ça se transforme très vite en richesse. Et là, évidemment, c'est le président de l'ADAPEI qui dit ces mots-là, mais j'allais dire, croyez-le. Le nombre de chefs d'entreprise qui sont émerveillés du lien social qui s'enrichit dans l'entreprise parce qu'ils accueillent quelqu'un d'un peu différent, ce n'est plus un problème, c'est une richesse. Vraiment. Voilà, pardon.
Mais le mot différent est important. On utilise de moins en moins le mot handicapé. D'ailleurs, on utilise plus en plus le mot diversité. Et alors, c'est pas M. Begret qui le dit, hein, c'est les entreprises. Quand il dit, c'est moi qui le dis, mais souvent on entend les entreprises qui disent, ça fédère les équipes. La diversité, ça fédère. On remarque souvent un absentéisme qui baisse des gens qui prennent conscience de leurs conditions de travail en disant, ben, quand je vois effectivement parfois les difficultés que peuvent avoir d'autres, effectivement, partout où il y a l'insertion de la diversité, ça augmente en tout cas les cohésions d'équipe. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu et qui fait que généralement, d'ailleurs, quand on a des partenaires, ces entreprises qui viennent vers nous une première fois pour l'insertion, et lorsqu'ils y sont essayés, ils redemandent à avoir d'autres personnes. Et après, l'entreprise, juste, je sais pas, le temps d'antenne qui nous reste.
On est au bout, quasiment au bout de l'émission.
Quasiment au bout, juste pour dire que l'entreprise, nous, on va vers eux, mais l'entreprise, elle peut être aussi partenaire de nos missions. C'est-à-dire que les entreprises, parfois, on leur demande juste de nous donner des lieux de stage pour pouvoir, je dirais, un petit peu évaluer les personnes que nous accompagnons. Une entreprise aussi, elle peut collaborer avec nous pour parler de nos actions. De plus en plus, maintenant, on fait des manifestations communes avec les entreprises. Une entreprise aussi, elle peut contribuer à l'achat de nos matériels en ESAT parce que les entreprises, désormais, peuvent verser directement la taxe d'apprentissage aux ESAT. Ça, c'est très important et quelque part, c'est un investissement parce qu'ils vont nous aider à procurer le matériel qui va former les gens qui, plus tard, ils vont embaucher. Donc, je veux dire, toute la logique est là. Et après, je dirais même, cette année, pour la CEP, nous avons même du mécénat. Nous avons sur le bassin l'entreprise McDonald's La Coccinelle qui a participé simplement par du mécénat, effectivement, pour supporter nos missions. Donc voilà ce que je voulais dire sur les entreprises.
Oui, il y a du mécénat. Vous citez McDonald's La Coccinelle. Moi, je peux citer aussi Saint-Gobain à travers sa fondation qui est venue nous appuyer dans les dispositifs mis en place par ce qu'on appelle une plateforme métier. Parce que nous sommes aussi... L'ADAPEI est une association fondée par des parents, mais l'ADAPEI est, j'allais dire, une entreprise au service de l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc c'est une entreprise. Donc des entreprises viennent nous aider à travers leur fondation pour que l'on grandisse sur ce chemin de l'accompagnement. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent, puisque c'est les dernières secondes peut-être, mais pour tous ceux qui veulent se renseigner un peu plus, il y a un site internet qui s'appelle ADAPEI 33 qui permet de rentrer en relation avec nous. Je veux dire, le dialogue, c'est le maître mot. Avec ce dialogue, on peut construire des choses assez extraordinaires.
Voilà. Et comme
n'ayez pas peur.
Comme vous l'expliquiez au début, il y a suffisamment de cellules un peu partout pour avoir des rencontres de proximité. Donc, avoir peur de la grosse machine.
Sur cette insertion professionnelle, quand on parlait de capacité à répondre aux entreprises, soit par des prestations de services ou de l'insertion, nous avons un maillage géographique qui a été cité précédemment sur 5 territoires, qui fait que parmi aussi notre ADN d'intervention, c'est la proximité. On est partout sur la Gironde et c'est aussi la disponibilité. Un chef d'entreprise qui a un besoin ou qui nous appelle, je veux dire, dans la journée, on est présent à l'entreprise parce qu'effectivement, nous sommes sur tout le territoire avec des professionnels qui sont quand même disponibles pour les entreprises. Voilà.
Bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour. Hein. On pourrait y passer quelques heures, je crois. Il y a tellement de choses et d'expériences et de cas particuliers à raconter et d'histoires de vie à raconter qu'on pourrait y passer effectivement plusieurs émissions.
N'hésitez pas à inviter des chefs d'entreprise qui travaillent avec nous. Peut-être que leur témoignage viendra compléter et donnera un regard.
Mais oui, tout mais à fait.
Peut-être qu'avec M. Corpard, nous pourrons travailler sur un projet, vous en avez parlé, peut-être de prise d'antenne parfois un peu régulière, pour dire un petit peu nos avancées, nos missions, nos résultats. Ce sera peut-être à travailler dans le cours de l'année, si c'est possible.
Ça fait partie effectivement des projets possibles. Ouais. Parfait, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Donc on n'hésite pas de se rapprocher du site internet où il y a tous les contacts et des précisions sur ce qu'on a pu voir dans cette émission. Nous, on se donne rendez-vous pour un autre acteur du quotidien. D'ici là, passez une très très bonne semaine. Merci à toutes et à tous et au revoir.
Merci, bonsoir.
Merci beaucoup. Say one, two.